Kiosque Magazine.
Bon vendredi matin, nous sommes le 9 janvier, vous êtes à l'écoute de Canal M et c'est Kiosque Magazine sous le thème de la culture et des loisirs. Ici Miguel Doucet.
Bonjour, je m'appelle Charles Roy, bonjour.
Et alors Charles, tu nous parles de quoi aujourd'hui?
Aujourd'hui, je vous parle du dénominateur commun. C'est une pièce qui sera jouée à la Licorne à partir du 13 janvier. Aussi, la programmation de théâtrale de Gatineau et Ottawa. En cinéma, 10 films à surveiller pour 2015, des films qui vont sortir prochainement sur nos écrans. Et aux Îles-de-la-Madeleine, on pense peut-être faire une pièce de théâtre qui raconte en histoire la fondation des Îles-de-la-Madeleine. Ça risque d'être intéressant.
Moi, et de mon côté, je vais vous parler du nouvel album de Joshua Radin. À la Place des Arts, on peut voir Jersey Boy, on va vous en parler. Et il y a un documentaire sur Verdun. Alors, c'est Alexandrice. Et aussi des 5 activités hivernales qu'on peut pratiquer comme à l'époque de nos aïeux.
Ah oui.
Dans le journal 24 heures du mercredi 7 janvier, dans un texte de Marie-Hélène Chartrand, elle nous parle du nouvel opus de Joshua Radin, une déclaration d'amour sur disque. De tous les temps, le sentiment amoureux a su inspirer les créateurs. Le nouveau disque de Joshua Radin, Onward and Sideways, en fait foi puisque ce dernier n'est rien de moins qu'une déclaration d'amour à celle qui partage maintenant sa vie. Alors, tout commence il y a 6 ans à New York, lorsque ce dernier rencontre une journaliste suédoise et reste en contact avec elle durant plusieurs années. Au départ, nous étions des amis, puis nous nous sommes fréquentés et par la suite, j'ai voulu officialiser notre relation, mais elle était réticente à s'engager. Je lui ai non seulement avoué mes sentiments, mais j'ai eu besoin de les exprimer. Je lui ai écrit une longue lettre d'amour. C'est l'album. Explique l'auteur, compositeur, interprète. Depuis ce temps, la missive d'amour a apparemment eu l'effet escompté car Radin est officiellement en couple avec sa douce. Mis à part une reprise, la totalité des titres a été composée lors de voyages de Joshua Radin à Stockholm et plus précisément dans le lit de l'hôtel où il logeait. J'ai mes meilleures inspirations dans mon lit. Je préfère composer là qu'assis sur un sofa. C'est d'ailleurs dans mon lit que j'ai appris par moi-même à jouer de la guitare, affirme-t-il. L'album comprend une reprise de la chanson Beautiful Day, originellement enregistrée sur l'album Wax Wings en 2013. Pour lui donner une nouvelle teinte, Joshua Radin a fait appel à Sheryl Crow. Joshua Radin place son intégrité artistique avant toute chose. En début de carrière, j'ai signé avec Columbia Records et mon intégrité a été compromise. On tentait constamment d'apporter des changements à mes compositions avec lesquelles je n'étais pas à l'aise. Je suis parti, je leur ai remis leur argent et je suis devenu un artiste indépendant, affirme l'artiste. Alors, il ne regrette rien. Et si vous voulez voir en spectacle Joshua Radin, il sera le 9 février prochain au Théâtre Corona. D'ici là, vous pouvez vous procurer l'album qui est en vente dès maintenant, Onward and Sideways. Peut-être avez-vous reconnu la voix de Frankie Valli, Four Seasons.
C'est lui qui est au perché, c'est ça?
Au perché, okay. Oui. Et hey, I've Got You Under My Skin. Mais ça m'amène à vous parler justement de Jersey Boy qui est présenté à la Place des Arts à la salle Wilfrid Pelletier. Alors peut-être des petites choses avant de vous parler du spectacle, à savoir qui sont ces Jersey Boys. Alors, les Four Seasons ont vendu plus de 100 millions d'albums en carrière. Et la comédie musicale Jersey Boy a été vue par plus de 20 millions de personnes à travers le monde. Wow. Présentement, il y a 4 à 5 productions qui tournent. Alors, le groupe était originellement formé par 4 jeunes hommes issus d'un milieu modeste et résidents au New Jersey. Alors, Tommy DeVito, Nick Massey, Frankie Valli et Bob Goody. Alors, ces deux derniers sont les membres qui resteront permanents au fil des années. Valli à titre de chanteur principal et Goody comme compositeur et producteur. Alors, celui-ci a commencé comme un des 4 membres officiels des Four Seasons, mais a rapidement décidé de se retirer des feux des projecteurs pour pouvoir écrire. Alors, Valli et Goody ont convenu dès leur début de partager les revenus générés par l'un et l'autre tout au long de leur vie. Ce contrat scellé par une poignée de main a toujours été tenu jusqu'à maintenant. Et ça se poursuit. Alors, le premier gros succès, c'est Sherry, qui est sorti en 1962, suivi par Big Girls Don't Cry, Walk Like a Man en 1963. Récemment, il y a eu le film Jersey Boy, réalisé par Clint Eastwood, et c'est inspiré de la comédie musicale. Alors, par la suite, Frankie Valli a poursuivi avec une carrière solo il fait encore des spectacles. Mm-hmm. Alors, l'article que je vais vous lire, c'est du journal Métro, d'un texte de Jessica Aymon-Ferra qui a été publié le jeudi 8 janvier. Ces soirées-là. Ces soirs-ci, à la salle Wilfrid Pelletier à la Place des Arts, on peut voir la comédie musicale Jersey Boys, qui retrace le parcours du groupe mythique des années 60, Frankie Valli and the Four Seasons. Soyez avertis, à moins de comprendre parfaitement l'anglais et plus particulièrement celui teinté d'un fort accent du New Jersey, quelques répliques des traits d'humour de la comédie musicale créée à Broadway il y a 10 ans risquent de vous échapper, mais ça ne vous empêchera pas de comprendre l'essentiel de l'histoire, somme toute méconnue des Four Seasons, groupe ayant signé un nombre impressionnant de tubes. Cette histoire est mise en scène de manière extrêmement dynamique, parfois même étourdissante, par Des McAnuff, qui a eu la bonne idée de la diviser en 4 saisons, comme le groupe. Les débuts, la gloire, les problèmes qui commencent et la séparation, narrés par chacun de ses membres. Un des attraits principaux du spectacle est évidemment l'impressionnante quantité de succès dont on avait même oublié certains qu'ils étaient des Four Seasons. C'est encore plus chouette d'assister à une comédie musicale quand les chansons qu'on y entend sont les Big Girls Don't Cry, Walk Like a Man, Can't Take My Eyes Over You et What a Night, dont la version française, la très connue Ces soirées-là, est chantée dans le sympathique numéro d'ouverture. D'autant plus que Aidan Milanes réussit à reproduire de façon franchement convaincante la fameuse voix de falsetto de Frankie Valli dans les numéros musicaux. Ses comparses lui sont d'ailleurs aussi bons comédiens que chanteurs et danseurs et portent avec brio cette production inventive et colorée sur les épaules. Alors, Jersey Boy est présenté à la salle Wilfrid Pelletier jusqu'à dimanche et il reste encore des billets.
François Chambaud et Emmanuel Gimnaz ont co-écrit une pièce qui s'appelle « Le dénominateur commun » qui s'est présentée au théâtre La Licorne du 13 au 31 janvier. Et puis, leur démarche artistique est pour le moins impressionnante. Et je vais vous lire l'article qui en parle. C'est tiré du Devoir. Ça s'appelle « Le choc des planètes ». C'est un texte écrit par Marie Labrec, paru le 3 janvier dernier. Ce n'est pas souvent qu'on discute élection ou trou noir lors d'une entrevue avec des dramaturges. La science et le théâtre font rarement ménage. Pourtant, le scientifique et l'artiste ne sont-ils pas tous deux des chercheurs, chacun à leur façon? Le travail de création est proche de la recherche scientifique, dans le sens qu'on y porte des hypothèses, pense François Chambaud. Quand j'écris, c'est pour réfléchir à haute voix sur une situation et j'y mets des hypothèses sur cette question à travers une histoire. Sauf que le laboratoire où j'essaie des choses, c'est dans ma tête. Afin de créer le dénominateur commun, le metteur en scène Geoffroy Gacquer a provoqué des rencontres entre 2 auteurs et 4 scientifiques. Un physicien de particules, une théologienne, un généticien et un psychologue. À ces chercheurs qui eux aussi s'intéressent, mais sous un tout autre angle, à la place des êtres humains dans le monde, François Archambault et Emmanuel Gymnase avaient pour mandat de poser trois questions aussi vastes qu'essentielles. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Mon Dieu, hein, c'est des grosses questions. Hein?
Les questions qu'on se pose tous.
Oui. Mais le duo d'auteurs est visiblement ressorti ébranlé et secoué par leur expérience. Si on avait lu sur ces sujets, je ne pense pas qu'on aurait eu le même choc qu'en rencontrant ces êtres passionnés par leur matière, avance Archambault. C'est ce qui m'a bouleversé aussi. Et à chaque fois, on sortait de ces rencontres en ayant l'impression de comprendre le monde. Ma vision du monde était complètement différente d'une entrevue à l'autre. Ces contacts ont expulsé tous les intéressés hors de leur zone de confort. Les scientifiques, surpris par des questions qu'ils ne se font jamais poser, les artistes, eux, confrontés à des concepts abstraits et difficiles et souvent troublants. L'auteur de La Société des loisirs a été frappé par la récurrence de la notion du vide au sein des différentes disciplines. Le psychologue parlait de manque, d'un vide spirituel, en théologie aussi. Même le physicien nous expliquait que toute la matière est faite de 99% de vide. Pour Emmanuel Gymnase, le choc venait aussi de recevoir toutes ces révélations sur l'univers et après de retourner chez soi en métro et de retrouver son petit quotidien. Oui. Il y a de quoi...
De vide.
Oui, exactement. Il y a un gros clash. Évacuer de nos vies courantes ces questionnements fondamentaux nous ferait pourtant du bien en relativisant nos problèmes ponctuels. La pièce illustre notre position d'humanité quant à ce mystère de l'univers. En effet, l'étude de la science a l'avantage de rendre humble, constate Emmanuel Gymnase. Comment ne pas rabattre son ego devant l'infinité vertigineuse du cosmos, qui sera toujours trop complexe pour être appréhendé par un cerveau humain, au dire des physiciens, ou confronté à l'idée selon laquelle on est unique sur Terre? Les auteurs affirment sortir grandi de ce projet unique. Bien sûr, ça ne règle pas la question du sens de notre vie, dit François Archambault. Qu'est-ce qu'on fait? La question nous appartient. Il en est un peu de même pour ce spectacle éclaté. À chacun de construire notre sens. Quand on l'a présenté en lecture publique, c'était fascinant parce que je pense qu'un spectateur ne l'a pas reçu de la même manière à l'autre. Je crois que le show est plus intéressant pour ça. C'est un objet vivant qui nous échappe et qui embrasse les mystères. Alors, si vous êtes curieux de voir cette pièce, je le répète, c'est à La Licorne du 13 au 31 janvier. C'est une production du Théâtre Debout. Dans le coin de Gatineau et Ottawa, la saison théâtrale, c'est la moitié de la saison, vous me direz-vous, là. La saison commence à l'automne à l'habitude, mais 2015 offre une multitude de spectacles et voici une vision à moyen et long terme des spectacles jusqu'au printemps. C'est un texte écrit par Maude Tucci dans Le Droit, tout attrapé pour la piqûre théâtrale. C'est paru le 3 janvier. On a eu droit au côté court. L'heure est maintenant venue de passer au côté jardin en cette deuxième portion de la saison théâtrale qui réserve quelques rendez-vous fort attendus. Dans la veine d'Albertine en cinq temps, remontée l'an dernier au Centre national des arts par Lorraine Pintal, 30 ans après sa création, Robert Lepage recrée à son tour Les aiguilles et l'opium, un solo culte de son répertoire inventé il y a deux décennies déjà, est présenté du 19 au 23 mai avec le même acteur, Marc Labrèche. De quoi assumer une courroie de transmission vers la jeune génération. Une pièce d'anthologie, toujours au CNA, Sébastien Ricard s'attaque au premier grand rôle du répertoire, celui de Richard III de Shakespeare, dans une mise en scène de la directrice artistique du théâtre français, Brigitte Hankins. Au Théâtre de Lille, la directrice Sylvie Dufour proposera un tour d'horizon de la littérature dans La soupe de Kafka de Marc Krisch. C'est du 11 mars au 11 avril. Et puis finalement, le Oscar Wilde se fera entendre à la Maison de la culture de Gatineau dans L'importance d'être constant, une comédie au pays des dandies et des ladies. C'est le 6 et le 7 février. Le spectacle de la guerre. En cette année de commémorative de la fin de la Seconde Guerre mondiale, deux pièces s'inspirent des pages noires de l'histoire. de très loin avec Le Prénom, une comédie douce-amère campée lors d'une soirée entre amis. Le prénom du bébé à naître tombe entre la poire et le fromage. Ce sera Ardolphe. La nouvelle ne fait pas fureur. Ah, c'est un beau jeu de mots. C'est présenté donc à la Maison de culture de Gatineau du 26 au 28 mars. Quant au journal d'Anne Frank, adapté par le théâtre d'Éric-Emmanuel Schmitt, il octroiera une session de rattrapage à ceux qui n'auraient pas pu le lire. Ce témoignage sur la vie clandestine d'une famille juive pendant la Deuxième Guerre mondiale sera mis en scène au Québec par Lorraine Pintal au TNM et bien sûr après, à la Maison de la culture de Gatineau, les 17 et 18 avril. Et aussi le 16, donc 16, 17 et 18 avril. Place aux créations d'ici. En primeur ou en reprise, les auteurs de la région ont la cote à la nouvelle scène. Cette saison 2015 reprendra notamment « Quand la mer » d'Esther Beauchemin, programmée aux ondes théâtrales 2013, à voir ou à revoir à l'école secondaire publique de La Salle, du 12 au 14 février et aussi du 19 au 21 février. Le CNA programme « Le long voyage de Pierre-Guy B. », fiction autobiographique inspirée de la vie du percussionniste Pierre-Guy Blanchard, du 28 au 31 janvier. À voir également au même théâtre le projet Bocal, la première création d'un jeune trio d'acteurs sorti récemment du Conservatoire d'art dramatique de Montréal. C'est le 18 et 21 février. Puis le 27 mars, la Journée mondiale du théâtre, la directrice du TF, du Théâtre français, Brigitte Hinkins, donne la parole aux auteurs d'ici alors lors d'une soirée fougueuse destinée à célébrer la langue intitulée « S'appartenir ». Par ailleurs, cette année encore, le Théâtre de la Ville de Gatineau reconduit son laboratoire de mise en scène du 10 au 14 février et ses cartes blanches le 26, 27 et 28 mars avec Dominique Fauché et Fred Abel. Pour ceux qui veulent plutôt rire en ces temps où, mon Dieu, c'est si tragique ce qui se passe dans... C'est pas drôle du tout, hein? Oui. Non. Ben, la Corneille vise de Lise Vaillancourt, Croasse-Roi au Théâtre de Lille avec des situations conflictuelles, certitudes sapées et répliques assassines du 28 janvier au 28 février. Et puis finalement, au Musée de la culture de Gatineau, les chroniques de Céléonore mettent en scène une famille traditionnelle, oui, italienne, un brin envahissante. C'est en salle le 13 et le 14 mars.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. For me. scent of the pine. You know how I feel. Oh, freedom is mine. And I know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life.
Michael Bublé, Feeling Good. Ça m'amène à parler du prochain film. C'est un feel-good docu.
Ah,
alors,
oui,
alors, c'est, on parle souvent de feel-good movie, mm-hmm. feel-good docu. C'est le titre de l'article d'André Duchesne dans la presse du vendredi 19 décembre. Alors, il nous parle du film « D'où je viens ». Alors, voici un petit résumé. Abandonné par ses parents naturels, puis adopté, le réalisateur Claude Demers grandit dans l'arrondissement Verdun. À l'âge adulte, il fuit les rues pauvres de son enfance, persuadé de ne jamais y remettre les pieds. Il se trompait. De retour dans son passé, tant physique que mental, il brosse aujourd'hui un portrait impressionniste du quartier et de ses habitants à qui il donne la parole. Entre deux souvenirs, Demers livre ses réflexions sur la vie et le temps qui passe. Alors, André Duchesne y va de cet article. « La beauté réside bien souvent dans le mystère, l'indicible. Elle s'immerse alors en nous, mais nos sens en éveillent, nous émerveillent, sans pour autant dévoiler tous ses secrets. Bref, nous sommes incapables de la définir, et c'est bien ainsi. D'où je viens, nouveau documentaire de Claude Demers, qui nous a offert Barbie, une histoire d'homme et Les Dames en bleu, sur Michel Louvain, se moule parfaitement à cette définition. D'où je viens est un film à voir pour plusieurs raisons, dont cette part de mystère qu'il a semé en nous. Claude Demers a voulu retourner dans le quartier de son enfance, Verdun, un retour qui n'est pas nécessairement synonyme de nostalgie, au contraire. Dans ses courtes interventions en voix hors champ, Demers nous apprend qu'il a été adopté, que ses parents ont songé à l'avortement. Il met dos à dos ses propos avec des images très actuelles dans un Verdun qui, en dépit de son intense embourgeoisement, a conservé l'âme qui lui donne les gens au train de vie modeste. On y croise des enfants qui éprouvent des graves difficultés en classe, une grande malade en voie de mourir et même, étonnamment, des chasseurs de canards sur le fleuve. À la fois capable de prendre du recul et de poser des questions pertinentes, Demers a su capter la spontanéité de ces gens. Ses propos sont mis en valeur par un travail de caméra exemplaire. Ses séquences, par exemple, de jeunes sur planche à roulettes ou en petits explorateurs sur les rives du fleuve, sont d'une immense beauté. Mais ce qui est encore plus beau, ce sont les silences, la lumière, le côté poétique, voire mystique de l'ensemble. Ce film nous prend aux tripes et nous secoue. Il dépasse notre raisonnement, il bouscule nos ancrages et pourtant, il nous fait du bien. On utilise souvent en fiction l'expression « feel good movie » et dans le même esprit, on peut se tromper en affirmant que « D'où je viens » est un « feel good docu ». Il est présenté cette semaine et la semaine prochaine à l'Excentris. Sinon, vous pouvez toujours aller voir sur les sites cinéma.
Avant de se quitter pour la pause, laissez-moi vous parler de ma première Place des Arts. C'est un concours de la relève organisé par la Place des Arts qui vise à mettre en lumière nos artistes de la relève en chanson et en musique. Alors, c'est organisé depuis 1993 par la Société pour l'avancement de la chanson d'expression française. Et oui, c'est un organisme qui existe. L'événement destiné aux artistes de tous âges et de tous horizons vise à promouvoir la musique francophone en mettant en valeur la relève. Chaque lundi, à compter du 12 janvier, les artistes, 18 interprètes et 18 auteurs-compositeurs-interprètes viendront se produire sur la scène de la salle Jean-Claude Léveillé de la Place des Arts. Le spectacle, animé par Marianne Niag, oui, sous la direction musicale de Jean-François Baudet, seront donnés devant public et retransmis sur les ondes de MaTV, la chaîne de Vidéotron. Et puis, dans le fond, si vous voulez avoir les billets, je vous donne le numéro de téléphone en mille, c'est le 514-842-2112. On se retrouve après la pause pour la deuxième émission de Kiosque Magazine, la deuxième partie.
Écoutez Kiosque Magazine.
Hier, Philippe Couture dans Voir a publié son article « 10 films à surveiller ». Ce sont des films qui vont apparaître prochainement sur nos écrans. Alors, les voici, ces 10 films. C'est ça dans Le Voir. Deux jours et une nuit. Selon la collègue Valérie Thérien, Manon Cotillard est fabuleuse dans la peau d'une mère de famille dépressive qui doit se battre pour garder son emploi dans Deux jours, une nuit, des brillants frères d'Ardenne. À l'affiche tout au début de l'année, ce film est pour le moins attendu. Et voilà. L'autre film, Inherent Vice, c'est le 7e long métrage de Paul Thomas Anderson et il se présente dans un enrobage coloré, décalé et psychédélique, campé dans les années 70 en plein rêve hippie et de délire paranoïaque. D'après le roman de Thomas Pinkerton, Inherent Vice semble marquer un retour aux sources pour le réalisateur de Boogie's Night et Punch Drunk Love. Le film Escobar Paradise Lost. Nous serons nombreux à courir au cinéma pour nous faire raconter l'histoire de Pablo Escobar, trafiquant de cocaïne au pouvoir tentaculaire qui, à Medellin en Colombie, étendait son emprise sur le milieu criminel autant que sur le monde politique. Le réalisateur Andrea Di Stefano raconte le personnage à travers la perspective d'un surfeur canadien qui tombe amoureux de sa nièce. Intriguant. Winter Sleep. Voici enfin la sortie américaine du film lauréat de la Palme d'Or au dernier Festival de Cannes. Le cinéaste turc Nuri Bilge Ceylan offre un huis clos psychologique de plus de 3 heures campé dans un petit village d'Anatolie et porté par des dialogues littéraires et une photographie sophistiquée. À surveiller. The Voices. L'Iranienne Marjan Satrapi est davantage connue comme bédéiste, elle a créé Persepolis, que comme réalisatrice. Mais depuis Poulet aux prunes, sa production cinématographique est observée avec attention. The Voices offre à Ryan Reynolds le rôle d'un ouvrier ayant la faculté de converser avec les animaux, dans un film qu'on dit à la croisée des univers des frères Coen et de Tim Burton. L'amour au temps de la guerre civile. Ce film de Rodrigue Jean suit à la trace quelques journées de la vie d'Alex, montrant la succession de baises qui mènent à l'achat d'une drogue vitale. Dans cet hyper-réalisme radical, les comédiens Alexandre Landry et Jean-Simon Leduc offrent des interprétations remarquables se rendant vulnérables et transparents à travers un jeu physique très subtil. Noir. Après le marquant Tout est parfait de Yves-Christian Fournier, il continue de poser sa caméra sur la jeune déroutée, cette fois en observant un groupe de jeunes habitant dans un quartier sensible, ce pourrait être bien Montréal-Nord, cherchant leur repère entre gangs de rue, le rap et la maternité. Samba. Olivier Nakache et Eric Toledano, les créateurs du film à succès Intouchables, sont de retour avec une autre œuvre s'intéressant au destin accidenté d'un immigrant qui a le marché de l'emploi et le système d'immigration français qui lui donne du fil à retordre. Le comédien Omar Sy reprend du service avec un nouveau rôle d'écorché au cœur tendre. Le film Force majeure. Ce film suédois de Robin Östlund, pressenti pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, raconte la troublante histoire d'un homme qui s'enfuit au lieu de se sauver de sa progéniture de la menace d'une avalanche. Notre collaborateur Nicolas Gendron y a vu une proposition ambitieuse de simplicité qui tisse une vaste toile de réflexion sociétale et intimiste sur les pressions, indues ou non, d'un groupe sur l'individu. Et finalement, la dernière proposition de M. Couture, Léviathan. Andrei Svigunstev est le réalisateur russe parfois comparé à Tartovsky, dont les films déploient une critique sociale à travers un regard sur les trames ordinaires de quelques personnages, en se montrant attentif aux petits riens et aux gestes anodins. Servi par des images magnifiques, Léviathan plante son décor dans une petite ville au bord de la mer de Barents. Donc, ces films sont à paraître prochainement, on vous tient au courant. Maintenant, une courte nouvelle. Sur les îles de la Madeleine, on songe peut-être à faire un spectacle qui mettrait en lumière l'histoire de la fondation des îles de la Madeleine. C'est un texte écrit par David Rémillard, paru dans Le Soleil le 5 janvier dernier. La fabuleuse histoire des îles de la Madeleine. Un projet de fresque historique sous forme de spectacle à grand déploiement est sur la table aux îles de la Madeleine. En partie calqué sur la fabuleuse histoire d'un royaume joué depuis 28 ans au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la production imaginée par un Madelino raconterait les origines de la population de l'archipel. Si l'idéateur de ce projet compare en partie son projet au projet du Lac-Saint-Jean, Roger Chavary prévient que sa production sera moins colossale. Ce sera un peu moins grand, en moins grand déploiement, avec moins de figurants. C'est assez compliqué, la fabuleuse, dit-il. Mais l'idée est là. On veut quelque chose d'assez gros. La fresque théâtrale, mais aussi multimédia, serait enrobée, entre autres, de dégustations de produits du terroir et formerait un pôle culturel pour les Madelinois et tous les Québécois. Le concepteur du spectacle actuellement sans nom fait du démarchage depuis près d'un an aux îles de la Madeleine pour sonder l'intérêt de la population. Et la pluie semble assez unanime, dit-il. Pour Jonathan Lapierre, le maire des îles de la Madeleine, il est clair qu'une telle production représenterait un attrait touristique et économique intéressant pour les Madelinois. Tout projet de cette ampleur-là qui devient du privé, on accueille ça à bras ouverts, a-t-il commenté Monsieur Lapierre. Notons que la firme Blackout a été approchée. L'entreprise spécialisée dans les effets visuels a déjà travaillé avec le Festival d'été de Québec, le Cirque du Soleil, Red Bull pour le Crashed Ice et le Comité olympique canadien. Quand même, fait qu'on, on a un peu une idée là, de à quoi ressemblera.
On s'en va quand même quelque chose là, quand même assez élaboré, quand même gros.
Oui. Et puis quelque chose qui peut durer. Là, on s'en
Tout à fait. On leur souhaite.
Oui. Bien, l'organisation entourant la fresque n'exclut pas l'aide gouvernementale pour arriver à ses fins. Une première mouture du projet doit être présentée aux différents paliers du gouvernement d'ici un mois, selon le directeur Roger Chavary. Si tout va selon les plans, les Madelinos projetteront la première représentation en 2016.
Si la route savait dire, prends-moi. En moi, me le soufflerait-elle de chacune de ces mille voix? Si la route savait rire, se moquerait-elle de moi, sachant que je veux fuir, sans trop savoir pourquoi, sachant que je veux fuir en marchant sur ses mille bras. L'otage quand je cours sans toi, d'une valse profonde, jusqu'à ce que je tombe. Quand la route me criera, rends-moi, rends-moi tous les chemins serpents que j'ai incrustés. Chaque erreur féconde, faudra que je réponde. Reviens à toi, quand même tu brandiras une à une des mille lois. Comment pourrais-je te rendre le plus vrai des tatouages, celui que le temps aura imprimé sur moi? Qui sait quand la route cessera de qui suis-je l'otage quand je cours sans toi? Qui sait quand la route cessera de vouloir?
On vient d'entendre Caracol et La Route. Et sur La Route, Miguel, tu nous proposes des sorties, c'est ça?
Oui, des sorties hivernales pour vivre le Québec d'antan. Alors, tiré du journal 24 heures du mercredi 7 janvier, un texte de Sarah-Émilie Nau. Alors, ces cinq activités hivernales pour vivre le Québec d'antan. Mm-hmm. Envie de mettre vos tablettes électroniques, ordinateurs et téléphones intelligents de côté? Bien, voici quelques suggestions pour vivre ce que nos aïeux vivaient à l'époque. Passer la nuit dans une maison longue traditionnelle. À Wendake, c'est dans l'univers de la première nation Huron-Wanda que l'on a l'occasion de plonger le temps d'une nuit. Au menu de cette incursion ancestrale, mythes et légendes, dégustation de thé du Labrador, souper trois services de cuisine Huron, visite guidée du musée Huron-Wanda, spectacle de danse, randonnée jusqu'à la chute Kabir Kuba, rencontre d'un gardien de rêve et feu et nuit dans une maison longue, l'habitation traditionnelle des Huron-Wanda. Un sac à dos, une chambre en simultané à l'hôtel Musée Première Nation et un petit déjeuner au restaurant La Traite ajoutent un peu de confort moderne à l'expérience. Alors, pour plus d'informations, tourismewandake.ca. Fendre les glaces du fleuve Saint-Laurent en canot à glace. La marée, le temps qu'il fait et les humeurs de la saison décideront de l'itinéraire lors de cette promenade aux allures d'autrefois sur le fleuve Saint-Laurent. Bottes néoprènes et crampons à glace aux pieds, mitaines, vestes de flottaison et équipements bien en place, c'est en compagnie de deux guides et de deux comparses aventuriers par canot que l'on quitte le bassin de Lance Brown pour s'élancer sur le fleuve partiellement glacé. Pose chocolat chaud sur une banquise dérivant le long du Vieux-Québec et vidéos souvenirs incluses. Alors, c'est de la mi-décembre à début mars, date de début et de fin de saison conditionnelle au climat. Pour plus d'informations, canoglacequebec.com. Se balader en traîneau à la ferme Duquette. Il n'y a rien qui fasse plus tant des fêtes et Québec d'antan qu'une balade en traîneau tirée par des chevaux. Sous de chaudes couvertures, le long des 5 km de sentier dans cette forêt de Val-David, on se blottit chaleureusement dans les uns contre les autres. Depuis plus de 30 ans, les traîneaux de bois glissent sur la neige folle, de jour comme de soir. En chemin, on arrête quelques instants à admirer Val-David et le mont Condor, puis on reprend la route tout doucement, comme si la frénésie moderne s'était enfin arrêtée. Alors, pour une réservation, 819-322-3829 ou fermeduquette.com. Faire dodo dans une tente 4 saisons ou une yourte rustique au parc La Gatineau. Au parc de La Gatineau, deux options de campement s'offrent aux fugitifs de la modernité, la yourte et la tente 4 saisons. Tente rectangulaire installée sur des plateformes de bois, les tentes 4 saisons peuvent loger 4 personnes chacune. Elles sont équipées de lits superposés, 3 étages, d'un poêle à bois, d'un réfrigérateur et d'un poêle au propane sans brûleur. Sans électricité et sans source d'eau potable à proximité, l'expérience qu'elles proposent rappelle assurément celle vécue par nos aïeux. Quant aux 4 yourtes du parc, des abris circulaires au toit en forme de cône installés sur des plateformes en bois, elles sont tout aussi bien équipées. Alors, c'est de la mi-novembre à la mi-avril. Vous pouvez aller sur le site ccn-ncc.gc.ca. Conduire son propre attelage de traîneau à chien. Au Mont-Sainte-Anne, il y a 20 ans, que Secret Nordique propose des cours d'initiation au traîneau à chien. C'est ainsi qu'on peut conduire son propre attelage de 6 chiens husky. On peut opter pour une formule duo de 2 heures où l'on conduira en alternance avec son partenaire, ami, conjoint, enfant, ou la formule VIP où l'on se laissera agréablement conduire par un guide professionnel. Une demi-journée d'exploration d'une durée de 4 heures est aussi disponible en semaine seulement à partir du 12 janvier. Alors, pour plus d'informations, Secret Nordique.
Je vous parlais tout à l'heure avec la pièce Dénominateur commun, le lien entre science et art. Mais voici un autre article qui en parle. En fait, ce n'est pas du théâtre, cette fois-ci, c'est de l'art visuel. Une exposition au Musée régional de Rimouski jusqu'au 8 mars. Une exposition de Laurent Lamarche, Exercice de transparence, c'est le titre de l'article que je vais vous lire, paru dans Le Devoir le 3 janvier, écrit par Marie-Ève Charron. Pour qui n'aurait pu encore s'initier au travail de Laurent Lamarche, le musée régional de Rimouski offre jusqu'en mars un contexte idéal. Dans cette première exposition muséale en carrière, l'artiste de Montréal présente une sélection serrée d'œuvres produites au cours des 4 dernières années. Il a surtout, avec l'éclairé concours de la commissaire et conservatrice de l'art contemporain Ève de Gary Lamarque, déployé et adapté sur mesure deux de ses projets. Ils ouvrent en ces lieux une expression des plus abouties. À l'exemple d'une bonne part du travail de l'artiste, l'œuvre se dévoile ainsi en deux temps. Elle fascine, puis fait le jour sur ses moyens plutôt rudimentaires. Comme pour ce qui est de la science et de ses visées, l'artiste se nourrit de son imagerie, de ses discours et de ses méthodes. Les œuvres sont ainsi, au sens figuré, un modèle de transparence. Donc, il explique un peu les œuvres qu'il a créées dans un deuxième temps. Elles produisent des phénomènes optiques, des perceptions, tout en mettant en scène leurs explications pour les rendre accessibles. Loin donc de s'en tenir à ce qu'on pourrait qualifier de racoleur en effets spéciaux, le travail de Lamarche parle inconsciemment du besoin de transparence chèrement ressenti à notre époque. De cela précisément, Stephen Harper se moque, comme semblent l'indiquer les entraves proposées aux travaux des scientifiques. Rimouski et ses instituts de recherche en savent quelque chose pour avoir subi d'importantes coupures au fédéral dans un secteur de pointe comme celui de la recherche dans le domaine maritime, notamment en ce qui a trait aux impacts des hydrocarbures et des contaminants sur l'espèce menacée qu'est le béluga. C'est aux sciences de la mer et au paysage fluvial auquel Laurent Lamarche a justement voulu faire écho dans cette exposition, en particulier avec Diffraction estuaire en 2014, spécifiquement conçu pour le musée sur les rives de Sa Majesté le fleuve. L'installation lumineuse qui occupe la grande salle est une variation sur un dispositif qu'il a développé depuis 2012. Ce sont des lasers bleus succédant à une série de rouges qui tracent sur les murs d'incandescents dessins, en apparence réalisés par de complexes calculs. Pourtant, seuls des rayons traversant du plastique thermoformé et rigidifié causent ces chimères. La preuve est là, sous les yeux, au cœur de la salle. Or, les atours sont une condition préalable. Ainsi le rappelle l'intervention lumineuse donnant sur l'extérieur. Tous les jours, une des fenêtres du musée s'anime en effet de projections bleutées. Cette mystérieuse activité graphique est une invitation à franchir les portes du musée, une invitation où l'imagination et fiction vont de pair avec connaissance et savoir. Donc, je le répète, c'est jusqu'au 8 mars, c'est au musée régional de Rimouski.
Si elle trotte les secondes, si je galope à moitié nu, à demi vécu l'hécatombe. Je me dis sous guettant le sombre, quel est le sens à première vue, découvrir mes catacombes. Tout seul dans l'arène, je suis le roi des ombres. Tout seul dans l'arène, je me suis perdu. La mer si profonde, goûtant le sel et l'amertume, mes idées noires se dévergondent. Élégant mon costume de plume, quoi qu'en craque la vertu, laissant mes entrailles en plein trip. Tout seul dans l'arène, je suis le roi des ombres. Tout seul dans l'arène, je me suis perdu. Je suis l'homme de ton âme, tu es l'homme de mon M. Je suis si ton cœur pulse.
traverse les secondes. M'aimeras-tu dans mon salut, les seules minutes vagabondes, avant de me manger tout cru.
Tout seul dans l'arène, je suis le roi des ombres. Tout seul dans l'arène, maître de l'hécatombe. Tout seul dans l'arène, je règne en haine. Je suis l'ombre de ton nom, tu es l'ombre de mon haine. Je suis haine.
Le roi des ombres de M. Eh bien, peut-être que vous avez le goût d'aller dans des endroits moins connus ou plus à l'ombre, qui sait. Alors, c'est dans le journal 24 heures du mardi 6 janvier, un texte de Marie-Hélène Chartrand, « Savoir allier les plaisirs ». Alors, certains établissements de Montréalais vont au-delà de l'offre culinaire en proposant des repas agrémentés de performances artistiques ou carrément de soupers-spectacles. Voici quelques-uns d'entre eux à essayer, si ce n'est pas déjà fait. Alors, sur une note jazz... Entre deux festivals, les amateurs de jazz ont de quoi s'occuper à Montréal. En plus de la série de concerts jazz à l'année, quelques institutions présentent des performances qu'on peut apprécier en sirotant un verre de vin ou en s'attablant. À la Maison du jazz, dans un décor digne des plus grands cabarets de jazz, l'établissement est ouvert tous les jours et propose un menu de type bistrot. Dès 19h30, c'est le soir, le public est invité à venir entendre des spectacles de musiciens. Alors, Maison du jazz, c'est au 2060 rue Elmers. Ensuite, il y a le Upstairs Jazz, ouvert 7 jours sur 7. L'Upstairs Jazz présente différents musiciens tous les soirs. Alors, c'est au 1255 rue McNay, upstairsjazz.com. Le Dièse 11, cet établissement discret de la rue Saint-Denis, séduit par son ambiance intime, ouvert tous les soirs. Il offre une variété de jazz allant du jazz latin les lundis au soul les mercredis, en passant par le swing et le jazz contemporain. Alors, c'est au 4115 rue Saint-Denis, dièse11.com. Vous avez aussi des soupers rythmés au balcon cabaret musical. Alors, comme son nom l'indique, le balcon possède une programmation variée proposant des soirées Motown, disco, soul, tout comme des spectacles de flamenco, de musique latine ou des productions dignes d'un cabaret de Broadway. Le spectacle est précédé par un repas comprenant un choix de pâtes, un choix de viande et un choix de poisson. Alors, le balcon cabaret musical, c'est au 304 rue Notre-Dame-Est, suite 201. Alors, lebalcon.ca. Il y a le Rialto, Théâtre Rialto, alors, qui offre des séries de concerts sont proposés en formule souper avec spectacle dans ce théâtre de l'avenue du Parc. Les menus varient selon les représentations. Plusieurs d'entre elles font revivre sur scène plusieurs grands noms de la musique tels que les Beatles, Elvis Presley, Frank Sinatra, ABBA et les Bee Gees. Si la plupart des événements proposent le souper avant le spectacle, l'un d'entre eux allie aussi les deux simultanément. La Pasta Opéra. Lors de cette soirée, le chef David Basali concocte le souper devant le public tout en chantant des airs d'opéra.
Wow.
Alors, le Théâtre Rialto, c'était au 5723 Avenue du Parc. Si vous voulez vous nous initier au voyage, peut-être vous aimeriez la couscoussière. Alors, c'est dans un décor digne des contes des mille et une nuits, un peu à style Alibaba. On accueille tous les vendredis et samedis à partir de 21h des danseuses de Baladi. Le menu de cuisine tunisienne, principalement composée de couscous et de tagine, complète la proposition. Bref, c'est un voyage unique en plein cœur de Montréal. Alors, c'est au 1460 rue Amers, la couscoussière.ca. Ou si vous voulez retourner dans l'époque du Moyen-Âge, alors voyage dans le temps, il suffit d'aller au à l'auberge du Dragon Rouge, inspiré de l'époque médiévale. Rien n'est laissé au hasard pour reculer dans le temps. Alors, la décoration, les costumes, les serveurs et le menu. De plus, tous les soirs, des troubadours se promènent entre les tables et donnent un concert en direct. Alors, l'auberge du Dragon Rouge est au 8870 rue La Jeunesse.
Avant de terminer l'émission, quelques brèves. Voici une critique CD de Autre Chose. Je ne sais pas si vous le connaissiez. Moi, je ne connais pas.
Autre Chose.
Il a sorti Show comme un jukebox. Les œuvres introuvables d'Autre Chose, enfin réunies dans un coffret digne de ses trésors. Voilà la poésie de ruelle de Francoeur, celle qui parle la langue des tavernes, des cœurs cassés et des bessics à gaz, gravés sur 4 CD. Dont un avec Voivode sur lequel la musique du band gronde comme une Harley Davidson. Donc, le journal Métro a donné 4 étoiles.
Alors, au théâtre Maisonneuve de la Place des Arts est présenté le spectacle de la culture chinoise Shenyang. Alors, le troupe de danse qui présente leur 9e saison avec cette production qui est en tournée. Alors, ils viennent à chaque année. Et c'est un spectacle qui est décrié par le Parti communiste chinois en raison de ses liens étroits avec le mouvement religieux Falun Dafa. Mais c'est un spectacle qui relate toute la danse et le bouddhiste. Alors, c'est jusqu'au 11 janvier au Théâtre Maisonneuve.
Sur nos écrans, vous pourrez voir Selma, c'est un film des États-Unis. En 1965, Martin Luther King, lauréat du prix Nobel de la paix, offre son soutien aux organisateurs d'une marche pacifique à Selma, en Alabama, afin de forcer le président à donner le droit de vote aux citoyens de race noire. Et pour ceux qui sont friands des galas, il y a le Golden Globes qui sera donné... présenté. Merci.
Oui, présenté dimanche.
Oui, c'est ça. Donc, à surveiller.
Oui, c'est un préquel pour les Oscars. Et peut-être une dernière suggestion au Rideau Vert ce soir et demain après-midi. Vous pouvez voir Revue et Corrigée si vous voulez rester encore dans le temps des fêtes. Eh bien, ça s'amorce la fin de l'émission de Kiosque Magazine. Je remercie Jean-Sébastien Liberté et Rémi Hermoso qui était à la console. Merci Charles.
Ça fait plaisir, merci Miguel.
Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Kiosque Magazine.